choisis la vie afin que tu vives. Une évidence. Qui ne choisirait la vie et le bonheur, car c'est ainsi que l'on traduit aussi, qui ne choisirait la vie et le bonheur plutôt que la mort et le malheur? N'est-ce pas la pente naturelle du cœur humain? N'est-ce pas un idéal partagé par tous? Et notre époque ne compte-t-elle pas de nombreux marchands de bonheur? Deux échéances où nous nous trouvons au milieu. Le début et la fin de notre existence. Deux échéances nous confrontent à des choix quotidiens et nous posent cette question essentielle: quelle vie voulons-nous vivre et de quelle mort voulons-nous nous en aller? Quel sens, au pluriel, subtilité du titre de votre semaine thématique, quel sens ont notre apparition et notre disparition de cette terre? Choisis la vie. Avons-nous vraiment le choix? Il y a la précarité de notre situation, les aléas de la santé, les marques de notre éducation, indélébiles parfois, la pression du milieu, mais aussi les vastes circonstances extérieures qui peuvent nous conduire à des choix différents, voire contradictoires. Quelle image de la vie permet d'en affirmer le caractère absolu au point de nous interdire toute intervention humaine en son début, le difficile avortement, ou en sa fin le non moins douloureux problème de l'euthanasie? Quelle vision de la vie peut-elle justifier la décision tragique du suicide violent, ou raisonner et programmer des associations d'aide à la mort volontaire? Et puis, d'autres choix vont du fatalisme à la Louis XV, après moi le déluge, à l'hédonisme cité parfois dans la Bible, mangeons et buvons car demain nous mourrons, quand ces choix ne passent pas par le catastrophisme, oui, c'est dur à dire, cher à nos médias, qui créent une contagion quotidienne du mal et du malheur. Et puis, surtout, quelle sorte de vie voulons-nous préserver, sauver? Qui veut sauver sa vie la perdra, nous dit Jésus. Les textes lus aujourd'hui dans la Bible, les textes nous plaçaient dans un tout autre contexte. Du Deutéronome, fondamental pour l'éthique juive, à l'épître aux Philippiens, une sorte d'SOS et en même temps de confiance de Paul dans sa prison, en passant par une parole du Christ sur le bon berger, mais qui va tellement bien dans le temps de la passion. J'aimerais suivre une réflexion sur le triple « je ». Il y a le « je » de Dieu, « je place devant toi la vie et le bonheur, le mal et le malheur ». Il y a le « je » de Jésus, « je donne ma vie afin de la reprendre ». Et il y a le « je » de Paul à l'intérieur de ce merveilleux « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Le « je » de Dieu, « je place aujourd'hui devant toi ». La vie et le bonheur, la mort et le malheur. Dieu d'abord, quelle chance, quelle grâce. Dieu à l'origine, Dieu à la fin. Dieu qui fait le lien entre vie et bonheur, mort et malheur. Vraisemblablement ici, il s'adresse au peuple sur le départ, vers la terre promise. Parce qu'il veut que toute vie soit une marche en avant. Oui, ailleurs il est dit, et c'est un peu plus dur, il fait vivre et il fait mourir, mais surtout, et avant tout, et par-dessus tout, Dieu se veut, comme le dit Jésus, le Dieu des morts, non le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, car tous vivent en lui. Vie et bonheur, mort et malheur, par là Dieu interpelle un interlocuteur à la fois personnel et collectif. Il parle à Moïse et il parle à Israël. Il y a ici un choix qui exige et qui engage une liberté. Alors viennent ensuite les commandements, les prescriptions, l'obéissance, donc. Ainsi, Dieu pose des conditions. Faut-il le soupçonner d'être le garant d'une morale ? C'est pourquoi l'on a parfois traduit la vie et le bien, la mort et le mal. Oui, alors il y a une condition pour l'entrée, l'installation, la prospérité dans la terre promise. Mais c'est la condition de l'amour. Aimer l'Éternel ton Dieu et suivre ses voies afin que tu vives. Un théologien suisse, maintenant décédé et regretté, Samuel Amsler, a fait remarquer que parmi les nombreuses motivations que les prédicateurs du Deutéronome donnent à l'éthique juive, il y a le bonheur. Ce n'est pas, dit-il, à la manière d'une théologie des œuvres qui présenterait la jouissance de la terre comme la récompense de l'obéissance, mais au contraire à la manière d'une théologie de la grâce qui lie au don l'exigence de Dieu. L'obéissance peut bénéficier de la grâce reçue et permettre qu'elle porte tous les fruits, ces fruits que Jésus promet à ses disciples. Bonhoeffer a bien écrit qu'il y avait un prix de la grâce. Les prophètes reviendront à leur tour toujours à nouveau sur ce lien entre l'offre divine et la demande humaine. Ils prêcheront toujours le retour à Dieu comme le seul fondement d'une existence où le bien que l'on fait tend la main au bonheur qu'on attend. Le bien que l'on fait tend la main au bonheur qu'on attend. Face à tous les malentendus autour de la foi et de la morale, ce message n'a pas vieilli. Et on cherche malheureusement souvent un bonheur sans entrave, un bien-être sans épreuve, une liberté sans responsabilité, une vie sans limite. Mais il faut que la conscience se réveille et entende la voix qui nous dit que lui place devant nous vie et bonheur, et qu'avec lui, nous pouvons choisir la vie. Et il y a là déjà, dans la fin de l'Ancien Testament, comme une bonne nouvelle, comme un évangile. Qu'est-ce que le « je » de Jésus ajoute ? En association avec ce message qu'il a sans doute connu, qu'est-ce qu'il nous apporte face au mystère de la vie et à l'angoisse de la mort ? Alors pour les « je » de Jésus, j'avais bien sûr le choix avec les « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection et la vie. » Mais en ce temps de carême, que je préfère en général appeler le temps de la passion, parce que c'est la passion de Dieu pour l'homme et la passion de l'homme qui va se sacrifier pour son Dieu et pour les autres, en ce temps de carême, les mots de Jésus choisis tout à l'heure conviennent mieux les mots du bon berger, « Je donne ma vie afin de la reprendre. » Une autre traduction dit « Je me défais de ma vie pour la reprendre, personne ne me l'ôte. C'est moi qui m'en défais de moi-même. » Il reprend l'initiative. Il décide de ne pas surmonter par la force avec les légions d'anges qu'on lui suggère de mobiliser ou d'éluder par la fuite l'échec évident de son message, l'ingratitude des foules, la jalousie des chefs, la lâcheté des disciples et la raison d'état de Rome. Il sait qu'il va au-devant de la mort, mais pour lui ce n'est ni un destin aveugle, ni une erreur judiciaire, comme on a essayé de le montrer. Il y a l'ignorance des bourreaux qui ne savent pas ce qu'ils font, mais lui sait. Je donne ma vie, personne ne me l'ôte. Alors cette parole précède, explique, commente celle du « je suis le pain, je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis la résurrection » ou même cette très belle parole de consolation dans les discours d'adieu « parce que je vis, vous vivrez ». Oui, les mots de « je suis, ceci et cela » ne sont pas celles d'un sage, d'un philosophe, d'un gourou, mais elles sont le fait de ce choix profond, mûri, déterminé, libre, par lequel il ouvre la voie à des hommes que la mort désormais ne retiendra plus prisonniers. C'est ce que l'Épître aux Hébreux dira. Il délivre ceux que la peur de la mort tenait prisonniers. Il ouvre donc à un bonheur qui retrouve son fondement, une morale qui retrouve un cœur, toute une éthique qui est celle du respect de l'autre. Par ces mots, je me défais de ma vie, quoi qu'on veuille me faire ou en faire, il se voit et se montre bien sûr comme celui qui ouvre un passage. Il le fait au moment de la fête de la Pâque, le passage par excellence. Oui, son ultime épreuve est un passage de la mort acceptée, assumée, à une autre dimension de la vie. Et au cœur de l'un de ses discours d'adieu, Jean 15, intervient un autre choix étonnant, renversant. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit-il à ses amis. C'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai institué pour que vous vous alliez, de nouveau, la marche en avant, que vous portiez du fruit, un fruit de vie, et que votre fruit demeure. » Choisir la vie, c'est donc aussi se laisser choisir par lui, au plus profond de nous-mêmes, pour pouvoir à notre tour nous dégager des faux projets et nous engager en porteur de l'espérance. Mais s'il fut un porteur de l'espérance et des promesses de Dieu, c'est bien Paul, l'apôtre des païens. Paul, qui réussit à ne jamais renier son identité de juif, ses capacités de pharisien, de connaisseur de la Torah, qui ne reniera jamais son attachement viscéral à son peuple et qui deviendra en même temps le promoteur de l'universalisme chrétien, Paul parle, écrit, voyage, bataille avec passion, passion encore, pour que ce peuple qu'il aime et dont il est issu et dont Jésus est issu se convertisse comme lui et qui crie en même temps, lui, Paul, son espérance de cet ultime retournement, rappelant à la jeune Église que c'est la racine d'Israël qui l'apporte. Mais revenons à notre sujet. Paul, qui ne sait pas trop s'il va sortir de sa prison ou s'il va s'en sortir, on a parfois pensé que c'était déjà la prison de Rome, mais maintenant on pense que c'est vraiment plutôt celle d'Éphèse. Paul, qu'est-ce qu'il motive face à cette vie et cette mort qu'il tient là, sous la main, ou plutôt qu'il le tienne là maintenant? Alors il a ces mots merveilleux du fond de la prison, « Christ est ma vie, et donc la mort ne peut m'être qu'un gain ». Comme Israël et Moïse interpellés par les mots « Je place devant toi la vie et la mort ». Comme les disciples invités par Jésus à le choisir parce qu'il les a choisis, Paul est placé devant l'alternative qu'il explique ainsi « Si la vie dans cette condition doit me permettre encore un fructueux travail, encore les fruits, j'hésite à faire un choix. D'une part, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, là, tout de suite, ce qui serait de beaucoup préférable. Mais de l'autre, demeurer dans la chair, est plus urgent pour votre bien. Avec raison, Albert Schweitzer a vu dans cette union de Paul avec le Christ une mystique. Il a même écrit la mystique de l'apôtre Paul. Oui, quand on cherche les origines de la pensée et de l'action de Paul, ne nous égarons pas du côté de l'Inde, bien entendu, à cause de ce mot mystique. Mais quand on essaye de mieux comprendre ce qui a fait d'un ennemi de Jésus son défenseur, voire son promoteur, passez-moi l'expression, c'est au choc du chemin de Damas qu'il faut revenir, à cette vision qu'il jette à terre avant de le remettre debout et d'en faire le champion de la foi, champion qui lui permettra parfois d'utiliser les images olympiques pour parler de la course du chrétien. Cette union avec le Christ lui permet de traverser victorieusement des épreuves multiples que vous pouvez lire dans la seconde aux Corinthiens, emprisonnement, menace de mort, flagellation, lapidation, etc. Traverser victorieusement des épreuves multiples, mais témoigner ainsi d'une victoire permanente dans un combat permanent. Non abandonné, pressé de toutes parts, mais pas écrasé, ne sachant qu'espérer, mais non désespéré, persécuté, mais non abandonné, terrassé, mais non annihilé. Nous portons partout, toujours, en notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée en notre corps. Mystique de l'apôtre Paul. Union avec le Christ. Vécu sur terre, puisqu'il décide de rester encore un bout de temps au milieu de ses amis. Vécu sur terre, l'enjeu de cette union n'est pourtant pas d'abord la survie, comme notre époque s'en préoccupe constamment. La survie physique, le bien-être matériel. Paul veut éveiller ses partenaires, d'abord juifs, puisqu'il commence toujours par les synagogues, puis ses adversaires juifs ou gréco-romains, à choisir. Il invite à choisir, lui qui a choisi, entre ce qui grandit l'homme et ce qui l'abaisse, entre ce qui le dégrade et ce qui l'épanouit, entre ce qui le fait vivre vraiment et ce qui le maintient dans la mort, parce que dans le célèbre texte de Romains 7, « Je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je ne veux pas. Qui me délivrera de cette mort permanente ?» L'union de Paul avec le Christ est ton choix, mais il veut en faire le choix de tous ceux vers lesquels le Seigneur l'envoie, au cœur de la vie et en dépit de la mort. La mystique du chemin de Damas, n'est-ce pas la dimension intérieure, recherchée par tant d'hommes et de femmes, déboussolés aujourd'hui encore? Et comme on le disait vendredi, Charlotte, peut-être que Paul est d'autant plus proche de tous ceux qui sont constamment dans la passion et dans l'écharde de la chair. Il est plus proche d'eux et cependant il leur dit qu'il a traversé l'épreuve de la vie victorieux. Et cette union avec le Christ face aux menaces du dehors n'est pas un salut par la fuite non plus, ni un repli vers le dedans. Non, cette mystique n'est pas séparable d'une éthique, d'un comportement quotidien, elle en est même le fondement. Et là nous retrouvons les amis du Deutéronome, fondement et source. Elle n'éloigne pas, elle rapproche, elle nous donne même le but de l'appel, afin que tu vives. Quelle vie? Nous le demandions au début de cette prédication et des réponses nous seront données tout au long de cette semaine. J'y vois cependant déjà une vie d'approfondissement intérieur qui doit nous permettre de mieux vivre au milieu d'un monde menacé, au milieu de personnes méprisées, au milieu d'une nature gâchée. Je la vois, cette vie, comme un enracinement et un jaillissement. Une vie osant des haltes, et préparant les sursauts. Retraite spirituelle, moment de méditation, lecture biblique, mais aussi initiative de solidarité. Aveu de sa faiblesse et redoublement d'efforts. Un texte tardif du judaïsme invite ainsi son lecteur « Tu triompheras de toi-même ». Et il relie cette parole talmudique « Tu triompheras de toi-même » à l'appel « Tu choisiras la vie ». L'homme, certes, est incapable de faire tous les choix, mais il a un Dieu qui peut et qui veut, du fond de la mort, faire triompher la vie. Amen.